qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'effectivement, les échanges entre ces pays se sont beaucoup développés et que l'ASEAN et les pays de la zone essaient maintenant, en quelque sorte, de capitaliser sur leurs échanges parce que tous ces pays d'Asie de l'Est sont des pays très ouverts au commerce international et en fait assez dépendants des marchés européens et américains. Or, avec le ralentissement de la croissance économique aux États-Unis et surtout en Europe, leur croissance économique à eux, à ces pays asiatiques, est elle-même menacée. Et ils essaient donc, en fait, de dynamiser les échanges à l'intérieur de cette région pour trouver une nouvelle source de croissance à l'intérieur même de la zone, pour faire en sorte que la région asiatique devienne un pôle autonome de croissance économique et ce soit beaucoup moins dépendant des marchés extérieurs à la zone qui se révèlent finalement pas très dynamiques. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ASEAN a déjà des accords de libre-échange avec des pays comme l'Inde, la Chine, la Corée, le Japon, l'Australie, Nouvelle-Zélande, mais ce sont à chaque fois des accords d'échange bilatéraux. Et ce qu'essaie de faire le projet est de transformer ces accords bilatéraux de libre-échange en une sorte de marché unique où la libéralisation des échanges soit plus générale.
Alors, est-ce que cette zone de libre-échange serait à terme plus profitable, on va dire, aux pays les plus pauvres pourraient rééquilibrer les choses?
Ça, il faudrait voir plus précisément ce qu'il y a dans les accords qui seront signés. Il y a effectivement des pays qui sont à des stades différents, puisque vous avez à la fois des pays comme le Japon, la Corée du Sud qui sont très développés, des pays moins développés comme la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, et puis encore des pays encore moins développés comme la Birmanie ou le Cambodge. Alors, si la coopération fonctionne bien entre tous ces pays, il se peut qu'il y ait ce qu'on appelait en Asie un vol d'oie sauvage, c'est-à-dire que les pays les plus avancés entraînent la croissance de ceux qui le sont moins, que finalement le développement se diffuse des pays les plus développés aux pays les moins développés. Maintenant que la Chine se développe et que ses salaires augmentent, il y a de la marge pour les pays qui sont moins développés qu'elles, moins riches qu'elles, pour accueillir des industries dans lesquelles les Chinois ne seraient plus compétitifs et où les pays les moins développés de la zone seraient compétitifs.
Les agendas politiques régionaux, les tensions entre la Chine et le Japon, les disputes territoriales que l'on a vues ces derniers mois, sont des menaces sur cette entité?
Il y a effectivement au sein de la zone asiatique une intégration économique, industrielle extrêmement forte et celle-ci ne cesse de croître, notamment parce que la Chine lui a donné, depuis son ouverture, depuis une vingtaine d'années, lui a donné une nouvelle impulsion. Alors bien sûr, la montée en puissance de la Chine est à la fois un nouveau moteur pour la croissance régionale, puisque la Chine agit comme un marché extrêmement puissant. C'est aussi bien sûr une source de tension, puisqu'au fur et à mesure que la croissance chinoise s'affermit, sa capacité à devenir rivale du Japon ou même de la tension avec l'Inde s'accroissent. Mais on voit bien que les intérêts économiques, en tout cas, dictent un certain nombre d'initiatives, dont celle-là est sans doute tout à fait significative. D'autant plus que, comme je vous le disais, les pays de la région sont de plus en plus amenés à compter sur eux-mêmes et ne peuvent plus, comme ça l'a été au cours des 10 ou 20 dernières années, compter sur le dynamisme de la demande dans leurs grands partenaires, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe.